تطبطبطبطبيني تطبطمصيطيني زماني الغايب عالحياة الفرحة تطبطبطبطبيني تطبطمصيطيني زماني الغايب عالحياة الفرحة.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Rock and Page, Marie-Pierre Soriano aux commandes de votre magazine littéraire et musical. Nous sommes ensemble pour 30 minutes chaque semaine et l'idée est de partager le plus fort possible un bouquin et de la musique. Moi je lis et avec vous je partage, je chronique les romans, les bandes dessinées ou les albums jeunesse. J'interviewe les auteurs quand cela est possible et puis je vous propose une playlist par ouvrage évoqué. Des titres qui jalonnent l'émission pour vous restituer en toute subjectivité, je suis d'accord, des ambiances, des tons, des écritures, des rythmes, des couleurs, de personnages. Et au sommaire de ce numéro, un roman paru aux éditions de l'Olivier, qui font très fort cette année, il faut quand même le reconnaître. Un roman qui a pour auteur Nathalie Gendreau. Un roman qui s'intitule Le Monde Sensible. Et comme j'ai beaucoup, beaucoup de chance, d'ici une poignée de minutes, Nathalie Gendreau en personne répondra pour vous et moi à toutes nos questions au sujet de son incroyable roman qui s'intitule Le Monde Sensible. Que moi, d'entrée de jeu, je vous dirais bien comme ça, en fait. Avec Daylight, pour vous dire toute la dimension flottante. Voilà, la dimension flottante du monde sensible. Ce premier roman de Nathalie Gendreau paru récemment aux éditions de l'Olivier, encore eux. Alors Nathalie Gendreau est née en 81, dites-moi, j'ouvre une parenthèse, mais entre Julia Carninon, Emmanuel Richard et elle, cette année c'est un peu comme si la relève est assurée, j'ai envie de dire, et qu'elle déboulait en le criant bien fort. Donc parenthèse refermée, Nathalie Gendreau signe là son premier roman, alors qu'elle est aussi et par ailleurs metteur en scène dans le milieu lyrique. Ce premier roman nous place face à une expérience totale. Non, pardon. Ce roman-là nous place au cœur, à l'intérieur d'une expérience totale. Comme si Nathalie Gendreau, que nous recevrons d'ici très peu de temps, avait eu un projet littéraire démentiel dès le départ. Mais laissez-moi essayer de préciser un tout petit peu les choses. Quand on ouvre le roman, Delphine, la narratrice, vient de rencontrer de façon totalement accidentelle, notez-le, accidentelle, Elvin. Bim, celui-ci est entré dans sa vie sans crier gare, il a fait décoller ses pieds du sol et c'est parti. Avec, entre eux aussi, quelque chose qui est important, une langue non partagée, a priori, des centres d'intérêt pas forcément non plus, des milieux sociaux et culturels pas non plus partagés. Trois jours plus tard, alors qu'elle va à sa rencontre, elle se fait faucher par une voiture. Nathalie Gendreau marque une pause, la première partie se referme, on ouvre la seconde, Delphine est à l'hôpital. La voiture l'a grièvement blessée et commence alors, pour nous, et sous la plume de Nathalie Gendreau, le voyage immobile et remuant dans le monde sensible. Avec ce titre Joseph, extrait de son album Null West Boy, pour vous dire toute la dimension prégnante, celle qui s'imprègne si fort, la dimension si intérieure du roman Le Monde Sensible, écrit par Nathalie Gendreau, que nous allons recevoir. Alors avant de la recevoir, justement, quelques mots sur l'écriture. Le roman est posé sur trois parties. La première qui nous présenterait cette Delphine, universitaire, cartographe, qui, je cite, alors là je vais vous faire la lecture, je n'étais ni rebelle, ni résolue. Je voulais tout voir du vaste monde, mais j'avais peur de sortir de chez moi. Alors, j'étais devenue géographe. Je passais des heures, les yeux rivés sur des cartes recueillies. J'étudiais les mers, j'étudiais les océans, ce qu'on a longtemps imaginé infini et qui me charmait pour cette raison. J'aurais voulu les voir avec les yeux du Moyen-Âge qui peuplaient les mers d'hydres improbables. Ma fascination pour l'élément liquide n'avait, il me semble, aucun rapport avec cette idée que je m'étais faite de ne m'exposer seule le soir aux dangers urbains que par temps de pluie. Sous la pluie, tout est calme. Tout rentre dans l'ordre. L'ordre de l'eau. Il pleut, c'est tout. Les délinquants ne sortent pas, ils craignent l'eau comme les chats. On ne croise que des vendeurs de parapluies, nécessairement débonnaires, des gens cachant leur visage sous leur parapluie, et des gens qui courent parce qu'ils ont oublié leur parapluie. Aucun autre événement ne vole la vedette à la danse de la pluie. Les roues des voitures pataugent, le choc de l'eau sur le bitume couvre le bruit des klaxons. Les rues de Londres doivent être sûres. Et après cette toute première introduction, cette espèce de présentation de celle qui est la narratrice, le personnage principal, arrive la rencontre fracassante avec ce garçon, Elvin, et puis l'accident, sans même qu'il soit décrit. Et puis la seconde partie, qui elle nous plonge dans l'enfermement de l'hôpital, du corps traumatisé, accidenté, blessé, qui nous plonge dans l'univers aseptisé de l'hôpital, dans les effets de la morphine, les perceptions changées. Et puis la troisième partie, qui est la sortie de l'hôpital et le début de la nouvelle vie, celle d'après. Le tout emmené par une narration forte. Entendez par là une histoire que Nathalie Gendreau nous raconte, mais dont on finit par penser qu'inventer aussi juste et aussi fort des sensations n'est pas possible sans l'avoir vécu. On passe sous sa plume d'espace de défonce où l'on croise des monstres et des morphées en personne, enfermés que nous sommes dans un hôpital, que dis-je, enfermés que nous sommes dans un corps qui de toute façon ne répond plus aux commandes, à des espaces de non-autonomie, l'urine qu'il faut sonder par exemple, et puis un peu plus loin encore, les bruits si intimes des voisins d'hôpital, et puis on se voit en convalescence, devoir se sevrer de la morphine et reprendre le contrôle d'un corps changé, d'une vie transformée en profondeur. Et ce voyage absolument réussi, écrit par Nathalie Gendreau, j'ai demandé à un auteur qui défend tout particulièrement ce roman-là, qui était en lice pour le prix Orange du livre, de choisir un morceau. Il s'agit de Fanny Carello qui a choisi pour vous restituer probablement son émotion de lecture à elle, un morceau de Meredith Monk qui s'appelle Totentaz et qui est un extrait de l'album Impermanence. Thank you. Voilà, c'était Totentaz, choisi par Fanny Chiarello. Pourquoi Fanny Chiarello ? Parce qu'elle a particulièrement été, j'imagine, chamboulée par ce roman-là, paru aux éditions de l'Olivier, écrit par Nathalie Gendreau, qui s'intitule « Le monde sensible ». Elle a défendu, je pense, bec et ongle, parce qu'il était en lice pour le prix Orange du livre. Et voilà. Alors ça c'était ce titre-là qu'elle a choisi pour dire la puissance du roman de Nathalie Gendreau, l'auteur du Monde Sensible, et sans plus tarder, il est grand temps pour moi de la recevoir ici même au micro de Rock and Page. Nathalie Gendreau, merci d'avoir, merci pour ce très très fort moment de lecture qui est le Monde Sensible, et puis merci d'avoir accepté mon invitation dans Rock and Page.
Alors, merci à vous de m'avoir invité.
Vous êtes metteur en scène, mais dans Le Monde Sensible, qui est votre premier roman, dites-nous un petit peu de façon générale, comment est entrée l'écriture dans votre vie ?
En fait, l'écriture est dans ma vie depuis toujours, depuis l'adolescence. Et mon premier roman, je le publie maintenant parce que je savais que j'étais prête, que j'étais mûre artistiquement pour... finir mon premier roman, mais c'est là depuis toujours, en fait. C'est difficile, c'est une vraie vocation, en fait. Mmh. C'est une vraie vocation, et voilà, et je travaillais mon écriture jusqu'à arriver au premier roman, sur lequel j'ai travaillé à peu près 4 mois. Un grand été, et puis des corrections.
Alors, vous êtes metteur en scène dans l'univers de la musique lyrique, ce qui n'est pas anodin. Car moi, j'ai pensé à la musique très fort à la fin de votre roman. Est-ce que vous diriez qu'il y a un lien étroit entre le projet littéraire démentiel, j'ai envie de dire, du Monde Sensible, et la musique avec un grand M, celle qui nous permet effectivement aussi des perceptions si fortes à l'intérieur de nous sans qu'on bouge, en fait ?
Oui, c'est une belle question. En fait, dans un texte, je tiens beaucoup à ce qu'il y ait une respiration, un rythme de lecture, comme si c'était de la musique. Je tiens beaucoup à ce que ce soit un vrai parcours, comme si c'était une symphonie. Ça, c'est quelque chose à laquelle je suis très attachée. Par exemple, il y a des chapitres qui font une demi-ligne, des chapitres qui font 3 pages. Mmh. Et voilà, ça, c'est comme des vagues et une respiration, un rythme propre du texte. Et ça, j'y travaille beaucoup. Et je suis très obsédée par la perception du lecteur, par l'expérience de lecture du lecteur.
Oui, c'est ça. Enfin, mais c'est exactement ça. On le ressent très fort, en fait. C'est-à-dire qu'on sent que c'est comme si vous aviez pas souhaité que l'on s'exprime sur qu'est-ce que c'est avoir mal, qu'est-ce que c'est avoir sa vie transformée par un tel accident, mais plutôt sur qu'est-ce que c'est de ressentir tant de jours d'hospitalisation, comment le corps répond, etc., etc. Le projet, il est vraiment là.
Oui, tout à fait. En fait. Donc quand j'écris, je m'intéresse vraiment à l'expérience du lecteur, comme s'il il entend une musique, il entend cette respiration. Et donc je ne veux jamais décrire un paysage ou une scène, mais je veux vraiment la faire vivre, la faire voir, la faire entendre par le lecteur. C'est vraiment cette perception, toutes les actions sont des phénomènes et ça, j'y tiens beaucoup à ce qu'ils ressortent de la lecture en ayant l'impression d'avoir eu une expérience de plus dans sa vie, en fait.
C'est tout à fait ça. Alors, moi, je suis partie, clairement, une fois que j'ai refermé le livre, mais vraiment tout à la fin du livre, je me suis dit que on ne pouvait pas, vous ne pouviez pas avoir traité cette question-là sans l'avoir vécu vous-même. Et en même temps, on n'est pas du tout dans l'autofiction parce que la narration prend une place très importante. Vous vous êtes bagarré beaucoup contre ça ou c'était simple dans votre écriture ?
En fait, c'était très simple hein. Pour moi. C'était la voie évidente, si vous voulez, par rapport à mon projet. C'est-à-dire que c'est un roman à la première personne, parce qu'effectivement, en fait, j'ai même pas réfléchi, parce que à partir du moment où je voulais que le lecteur se s'implique réellement dans le processus de lecture personnellement, dans la perception. Mmh. C'est forcément à la première personne. Et en même temps, l'autofiction, si vous voulez, moi, c'est une catégorie qui me parle pas, parce que je ne comprends pas, en fait, parce que à la limite, toute la littérature est autofiction, puisqu'on parle à partir de soi, à partir à la limite de ses voisins, de ce qu'on connaît, pas forcément de soi, mais des gens qu'on connaît, qu'on a vus, des expériences qu'on a eues. Et même si on ne raconte pas forcément une expérience entièrement vécue, c'est à partir de ce qu'on est. Donc forcément, en l'occurrence, évidemment, il y a une petite partie qui est racontée à partir d'une expérience vécue, notamment la partie à l'hôpital. Mais c'est totalement romancé de manière à... Enfin, c'est une vraie fiction. Mm-hmm.
Alors, dans la construction du roman, on sait par exemple que des auteurs sont très attachés à des figures. Borges a été obsédé par le labyrinthe, par exemple. Moi, j'ai trouvé des boucles chez vous. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai très fort associé la rencontre de Delphine et Elvin avec un accident, en fait. Et puis l'accident. Mmh. Est-ce que vous aviez pleine conscience de ça ou pas tellement, finalement ?
Non, effectivement, c'est intéressant que vous me disiez cela. C'est pas conscient, mais je pense que ça fait partie du projet, la boucle, effectivement, du projet de créer un rythme. La musique, ça travaille beaucoup par le retour. Hein. Mmh. Ça avance et ça retourne, et ça avance et ça retourne, ça revient, et on va quelque part. Mais ça travaille beaucoup par l'impression sur le souvenir dans le lecteur, le travail sur la fonction du souvenir. On se souvient d'un petit passage, on le reprend, mais avec des petites modifications. Oui. Et je travaille beaucoup comme ça. Effectivement.
Est-ce que, du coup, enfin, moi, ce projet littéraire-là, je l'ai trouvé tellement, tellement fort, tellement, tellement ambitieux et parfaitement réussi. Mais est-ce que, du coup, si vous pensez au roman dans le futur que vous pourriez écrire, finalement, c'est pas un projet littéraire qui prendrait toute une vie. C'est-à-dire celui de pas simplement montrer, mais celui de partager le ressenti, l'expérience, en fait.
Oui, c'est très juste, c'est bien vu. Effectivement, je pense que c'est ce qui m'intéresse dans la littérature, et c'est la voie que je vais emprunter au moins les prochaines années, c'est très certain. Je travaille déjà sur un prochain roman, mais en tout cas sur ce qui est de mon obsession de l'expérience du lecteur, et qui m'intéresse, c'est qu'il vive quelque chose dans ce livre. Ça ne changera jamais, je pense. Ça, c'est vraiment ce qui m'intéresse.
Alors, lorsqu'on referme le roman, on laisse Delphine qui commence une nouvelle vie. J'imagine que cela faisait aussi partie des choses, des ressentis que vous aviez envie de montrer, d'exprimer. Que diriez-vous que vous a apporté l'écriture du monde sensible ? Qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même ?
Waouh ! Disons que, comme c'est un premier roman, je pense qu'un premier roman... Et toujours d'une certaine manière une forme d'art poétique, même si c'est peut-être un grand mot, mais c'est aussi une manière de dire voilà, ma littérature c'est ça. Et donc effectivement, comme c'est une manière pour le personnage qui s'appelle Delphine, à la fin du roman de se réinventer, elle réinvente sa vie, et elle va vers l'avenir, effectivement c'est aussi une image de ma manière d'aller vers la littérature. Là, c'est un premier livre qui va en amener d'autres. Mais effectivement, je pense qu'on peut voir tout le livre comme aussi une métaphore de de la vocation d'écriture qui est mise en pratique et qui est offerte au lecteur, et j'espère à l'expérience du lecteur.
Donc c'est un grand... On pourrait dire aussi que l'écriture, finalement, c'est un grand enfermement.
Forcément, c'est-à-dire qu'effectivement, dans mon métier de metteur en scène, on n'est jamais seul. Hein. C'est quelque chose qu'on pratique en équipe, et surtout à l'opéra, en très grandes équipes, on est très très nombreux. Alors que l'écriture, on est complètement seul avec le texte et avec le lecteur. Donc finalement, c'est des pratiques très différentes. C'est une forme d'enfermement, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est un isolement momentané pour méditer sur la vie, sur l'existence, mais d'une manière qui, pour moi, est très vivante. Mm-hmm. Enfin, c'est pas du tout quelque chose de mortifère, surtout en ce qui me concerne, parce que c'est alimenté par un métier qui est très vivant et très physique. J'ai ma astise, hein, c'est quand même très très, très physique. Mm. Oui, donc pour moi, c'est pas du tout un désir d'enfermement. Mais effectivement, la solitude de l'écriture, je pense que tous les écrivains la recherchent, au moins de manière momentanée.
Très bien. Alors, la question rock'n'page, Nathalie Gendreau, avant de vous remercier infiniment d'avoir accepté cette interview et puis de vous remercier encore une fois pour Le Monde Sensible qui est paru aux éditions de l'Olivier. Si vous deviez choisir un seul titre de musique pour évoquer votre roman, sans en parler, vous choisiriez lequel ?
Ce serait le prélude de l'Ordurin de Wagner.
Voilà, c'était Nathalie Gendreau au micro de Rock'n'Page. Je vous rappelle qu'elle vient de répondre à toutes nos questions au sujet de son roman très très réussi et vraiment tout droit sorti du fin fond de nos perceptions. Son premier roman, Le Monde Sensible, paru récemment aux éditions de l'Olivier. Je vous rappelle que ce roman traite avec beaucoup, beaucoup de talent à quel point la vie, le corps peuvent être chamboulés après un accident. Elle raconte cette espèce d'immersion totale, mais elle raconte en fait en nous permettant de ressentir les choses et en laissant tout à fait de côté, et je trouve que c'est toute la dimension absolument réussie de ce roman-là, quelque chose qui serait de l'ordre du jugement. Voilà, il n'y a pas d'apitoiement, il n'y a pas de voyeurisme dans ce roman-là. On souffre pas, c'est ça, on souffre pas d'empathie de voir quelqu'un à ce point-là aussi privé de son propre corps et puis devant se le réapproprier, se le réaccaparer. Non, on vit le voyage avec elle, on le traverse. Alors probablement à une autre distance, mais voilà, c'est quand même très très réussi. Vraiment, il faut se pencher au-dessus de ce roman, s'arrêter, le lire et le partager. Merci à Bruno qui a réalisé la technique de cette émission. Merci à Fanny Carello qui s'est prêtée au petit jeu de choisir un titre pour évoquer sa lecture aussi à elle du Monde Sensible de Nathalie Gendreau. Vous pouvez retrouver tous les anciens numéros de l'émission sur le blog qui lui est consacré au http://thisisrockandpage.blogspot.com. Prenez bien soin de vous et avant de vous retrouver la semaine prochaine, je vous laisse en compagnie d'un dernier morceau qui, pour moi, dit bien les perceptions qui changent. Allez, boum, c'est parti. We'll be right back.